Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme à mon habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles.
Je suis toujours là, fidèle au poste.
Pour faire le pont un peu avec la dernière émission, nous avons largement parlé de la Chine. Aujourd'hui, on va commencer en parlant un petit peu de l'Inde.
Ah bah très bien.
Avec une information que j'ai vue passer dans la semaine, qui est que l'Inde devenait, devant la Chine, le pays le plus peuplé au monde.
Oui.
Donc évidemment, ça c'est dû à l'effondrement énorme de la démographie chinoise sur ces 20-30 dernières années. Et donc aujourd'hui, on en voit un petit peu les conséquences. Et on avait déjà évoqué dans des émissions l'idée que possiblement la Chine serait vieille avant de devenir véritablement puissante. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'elle se fasse dépasser par la Chine, l'Inde, au final?
Écoutez, pour revenir à la Chine assez rapidement, c'est pas qu'il y a un effondrement démographique, c'est que vous savez, la démocratie est quelque chose qui bouge avec une sage lenteur. Donc, tiens, il y a le
DAF qui se manifeste. Ouais.
Qui se manifeste. Ce qui se passe, c'est que ils n'ont pas une naissance. Alors, leur population n'augmente plus par le bas.
Ouais.
Mais elle continue à augmenter par le haut parce que la longévité augmente.
Oui, il y a un vieillissement de la population.
Il y a un vieillissement de la population. Dans le fond, ce qui leur manque, c'est la base, quoi.
Ouais.
Donc, ça sera un effet sans doute sur l'économie d'ici 10-15 ans quand les classes d'âge
vont commencer à...
Mais déjà, pour vous donner une idée, il y a 15-20 ans, quand ils ont commencé vraiment leur poussée économique, il fallait que la Chine crée plusieurs millions d'emplois chaque année, ce qui l'a forcé à une politique très, très agressive d'infrastructures, etc. Aujourd'hui, le nombre de gens qui s'en vont est supérieur au nombre de gens qui restent. Donc, ils n'ont plus cette ardente obligation de créer des boulots. Et donc, on peut s'attendre à une politique un peu moins agressive dans le domaine des infrastructures, des constructions de routes, d'autoroutes, tous ces trucs-là. Donc ça faisait un petit moment qu'on voyait ce mouvement se dessiner. Mais elle a encore quelques années, comme elle a quand même toute une série de classes d'âge qui ont maintenant 45, 50 ans, qui ont été très bien éduquées par rapport au peuple de paysans d'il y a 80. Si vous voulez, déjà, ils ont encore quelques années où la productivité du travail peut monter beaucoup. Bon, donc je ne fais pas trop de soucis pour la Chine. Ils ne sont pas au point où nous, on a commencé bien avant d'avoir cet effondrement et où on a une baisse absolue de la population. Alors, en ce qui concerne l'Inde, ils ont encore une démographie assez forte, mais il y a quand même le taux de fertilité, c'est le nombre d'enfants par femme, qui commence à bien baisser. Et pour l'instant, ils couvrent encore à peu près le remplacement, c'est-à-dire à peu près deux par femme, mais d'ici quelques temps, si ça suit l'espèce de chemin qu'ont suivi à peu près tous les pays, quand le taux de fertilité commence à baisser, en général, ils ne s'arrêtent pas à deux, quoi, ils continuent. Donc c'est un phénomène, et j'en profite pour signaler que tous les gens qui disent qu'il y a beaucoup trop de monde sur la Terre disent que des grosses bêtises. Quoi. D'ici quelques temps, il n'y en aura certainement pas assez. Quoi. Donc, pour être dans l'air du temps, je dis aux gens, faites des enfants et engagez-vous dans l'armée. Quoi.
Oui, ça me paraît une bonne synthèse. Ouais.
C'est les deux choses qui me paraissent à peu près certaines dans les années qui viennent. Quoi.
Mais alors, est-ce que vous voyez peut-être justement d'ici 25-30 ans, l'Inde repasser devant la Chine?
La Chine, alors, il y a deux choses, si vous voulez. L'Inde a commencé à suivre une politique économique relativement intelligente bien après la Chine. Là, ça a commencé à la fin des années... ça a commencé avec Deng Xiaoping, donc ça devait être au fin des années 80, début des années 90. L'Inde y est arrivée bien après. Ils ont traîné avec une espèce de social-démocratie européenne beaucoup plus longtemps. Mais ça, c'est fini. Donc, je crois que le PIB indien doit être à peu près le quart du PIB chinois. Donc, avant qu'ils rattrapent ça, il va falloir du temps, quoi. Mais il n'en reste pas moins que la plus grosse partie de la croissance dans le monde viendra maintenant de l'Inde et non plus de la Chine. C'est-à-dire que la Chine continuera à croître, mais si j'ose dire, de moins en moins vite.
Ouais.
Et puis les autres, ils vont continuer à cartonner pendant un petit moment. Quoi.
Oui, c'est ça, c'est que le potentiel de croissance est beaucoup plus élevé en Inde qu'en Chine. Et en Chine, le temps des croissances à deux chiffres est probablement terminé.
Terminé complètement. Alors il y a quelque chose qui est très important pour l'Inde. c'est que, je crois qu'on en a parlé déjà ici, c'est cette espèce de relation un peu privilégiée que l'Inde a toujours eue avec la Russie, pour des raisons historiques. Et ce qui se passe, comme on l'a dit, je crois, la dernière fois, c'est que la Russie est en train de mettre au point des moyens d'exporter ses matières premières vers l'Inde. Et donc, vous avez ce couloir dont j'ai parlé, qui partira de Sébastopol, qui passera par le Moyen-Orient, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Pakistan, et qui descendra jusqu'à l'Inde. Donc, c'est la première fois de son histoire que l'Inde va avoir accès à des matières premières en les payant avec sa propre monnaie. Et ça, ça va tout changer.
Ouais.
C'est-à-dire que dans le domaine financier, qui reste mon domaine, qu'on le veuille ou non, eh bien, je crois que le marché à avoir dans les 30 ans qui viennent, c'est l'Inde, quoi. Ça va tout changer là-bas. Et comme ils ont d'excellentes universités et un personnel formé important, ils ont de quoi répondre. Par contre, ils ont un gros handicap, c'est qu'à peu près 35 à 40% de la population dans les campagnes est encore illettrée. Et donc, ils ont pas réussi ce qu'avaient réussi la plupart des pays communistes. C'était quand même l'alphabétisation de toute la population, quoi. Il y a toute une partie, encore toute une partie qui n'est pas bien couverte. Donc là, ça peut être un frein parce qu'ils ont cette grosse partie de la population qui va rester dans des boulots où c'est difficile de grimper parce que si on ne sait pas lire et écrire, c'est difficile.
Oui, forcément. Oui, c'est sûr, c'est avec la généralisation massive des études pour les jeunes Indiens que derrière, il peut y avoir un développement extrêmement important. Quoi. Et après, les Indiens, quand même, on va dire, ils réussissent à avoir un top niveau.
Incroyable.
Absolument phénoménal.
C'est un peuple de matheux.
Ouais, c'est un peuple de matheux et ils s'exportent très très bien dans le monde. S'ils réussissaient à garder cette classe-là vraiment dans leur pays... je pense qu'ils auraient un potentiel
ils
vraiment
ont besoin. Mais je crois que le patron de Microsoft est un Indien. Je me demande si l'un des patrons de Google n'est pas un Indien. Donc, ils ont particulièrement bien réussi dans toutes ces industries de la connaissance. Et, justement parce que ce sont des matheux et des programmeurs. Et des,
ouais.
Donc, il me semble que là, et en Inde, il ne faut pas trop se fatiguer, comme c'est un pays qui a presque de façon structurelle une pénurie d'épargne, ils rémunèrent très très bien le marché des actions. Le marché des obligations, c'est pas très facile. Puis je veux dire, c'est pas ok. Les obligations sont un bon achat aussi, mais je prends l'Inde, c'est vraiment un pays qui a organisé sa croissance autour de son marché des actions. Donc autant pour la Chine, comme ils avaient un excédent d'épargne, je disais il faut acheter des obligations. Autant, ce qui paraît paradoxal, mais départ, et autant pour l'Inde, je me dis, tiens, la rentabilité marginale du capital investi va être forte, quoi.
D'accord, ouais.
Donc, il faut bourrer sur l'Inde, quoi.
Ouais. Mais d'ailleurs, en plus, pour reparler de leur fuite un petit peu des cerveaux, aux États-Unis, la communauté, justement, qui a le revenu moyen le plus élevé, c'est la communauté indienne. Plus que les juifs, ou plus que les asiatiques, que les japonais, enfin, c'est assez hallucinant. Alors, il y a pas mal de sujets que je voudrais évoquer aujourd'hui quand même.
Et ils ont un autre avantage, les Indiens, c'est qu'ils ont quand même beaucoup le droit anglais, qui est très favorable aux affaires.
Ouais.
Et un droit de propriété, et c'est une démocratie.
C'est vrai.
Tous les problèmes moraux qu'on pouvait avoir sur la Chine...
Par rapport à la Chine,
là, il n'y en a pas des masques.
Société de surveillance, tout ça,
ouais. Ouais.
Oui, c'est vrai que ça m'a l'air un peu plus tranquille de ce côté-là. Au premier trimestre 2023, c'est une information de la Banque de France, il y a eu environ 45 000 faillites d'entreprises, c'est-à-dire autant, pour se faire une idée, que sur l'année 2019. Selon vous, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû aux retombées du Covid, avec en plus de ça la hausse des prix de l'énergie?
Je crois qu'on a maintenu en vie artificielle avec toutes ces subventions pendant le Covid, les 400 milliards. Et maintenant, les gens, ils se réveillent. Ce qui fait tourner une entreprise, c'est pas les subventions, c'est le client. Et comme on a des contraintes budgétaires qui deviennent de plus en plus fortes, les subventions s'arrêtent. Je ne veux pas être alarmiste, mais je dis à partir du moment où les subventions s'arrêtent pour les entreprises, il est à craindre qu'un de ces quatre, elle s'arrête aussi pour les transferts sociaux. Donc, vous comprenez mieux pourquoi il faut absolument faire quelque chose pour la retraite, et puis ensuite, ce sera pour la sécu. Et hélas, quand il n'y a plus un rond, il n'y a plus un rond, quoi.
Mais d'ailleurs, on va en parler un petit peu juste après. C'est-à-dire qu'on a aussi une chute de la productivité.
C'est normal, ça.
Chute de la productivité de 3,6% par rapport à 2019, ce qui est absolument gigantesque. Ouais. Chute de la productivité.
Ça veut dire que tous les boulots qui ont été créés, dont on nous raconte qu'ils ont amené à pas de chômage en France, qu'on est au niveau, que c'est une remarquable réussite, sont des faux emplois.
Mmh. Ouais.
C'est-à-dire qu'on a créé sans doute plusieurs centaines de milliers de faux emplois, et les 400 milliards, ils ont dû servir à ça, en particulier. Mais... ça veut dire que s'il n'y a pas de hausse de la productivité, voire s'il y a une baisse, mais je vais vous dire quelque chose de très étonnant, si la productivité baisse, le coût du travail monte.
Mais c'est logique.
Mais c'est évidemment la contrepartie. Et si le coût du travail monte, les marges bénéficiaires des entreprises baissent. Ce qui fait que vous m'avez posé une question, pourquoi il y a 41 000 entreprises qui ont sauté ? C'est peut-être parce que la productivité baisse. Et donc, dans le fond, vous me posez deux fois la même question.
Quoi. Oui, c'est un peu ça. Mais en plus de ça, tout est un pont entre tout, parce que cette chute de la productivité aussi, c'est évidemment un énorme problème derrière pour nos retraites. Parce que là, sur ces 40 dernières années, bon, on a eu à chaque fois de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs. Sauf que ce phénomène-là était quand même comblé par la hausse de la productivité. Alors que là, si on a encore une hausse du nombre de retraités par rapport au nombre d'actifs, mais sans hausse de la productivité, c'est juste infinançable.
Ben, si vous avez une baisse de la productivité des gens qui travaillent, ça veut dire une baisse du niveau de vie. Et ça veut dire qu'il est hors de question de maintenir le niveau de vie, comme on l'a dit souvent ici, des retraités.
Ouais.
C'est simplement pas possible. Vous essayez de faire rentrer un triangle dans un rond, quoi. Ça marche pas. Donc, on voit bien. Et l'embêtant, si vous voulez, c'est que toutes ces politiques débiles qui ont été suivies depuis des années arrivent probablement à leur fin, et on va voir des pans entiers qui vont d'un seul coup s'écrouler. C'est-à-dire que ce ne sera pas des petits problèmes à régler avec des bouts de sparadrap. C'est que, comme si la productivité baisse de 3,6%, c'est absolument incroyable, c'est gigantesque. Et je vais vérifier, mais je n'ai pas d'exemple qui me vienne à l'idée d'un pays où ça sera produit avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, c'est... Je regarde ça, je dis, ça veut dire qu'on a créé des emplois qui coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. Mmh. Comment voulez-vous que ça marche ?
Ça peut pas marcher, en tout cas pas à moyen ou long terme, c'est
en
sûr.
En tout cas pas dans une économie ouverte, ça peut marcher ouais. Peut-être en Corée du Nord,
ouais.
Où ils importent pas des masses de choses, mais... Donc je regarde ça, je me dis, mais... Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que tout ça était parfaitement prévisible, et vous voyez les trucs s'annoncer, et les journalistes économiques disent, tiens, si je reprends, la productivité baisse.
Oui.
Et vous dites, mais... pourquoi vous êtes surpris? On a cessé de... Là où c'est le plus facile de faire des gains de productivité, c'est dans l'industrie. À partir du moment où vous condamnez notre industrie à mort, si vous voulez, le garçon de café ou le coiffeur, il va pas monter sa productivité de façon extraordinaire.
Oui, c'est clair.
Ou la fille qui fait les chambres d'hôtel, ou j'en sais rien. Donc tout ça, c'est des... On s'est servi des statistiques pour nous masquer la réalité... Mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y avait pas quelque chose qui se passait. Mais aujourd'hui, on ne peut plus servir des statistiques. Parce que même les statistiques commencent à vous dire la vérité. C'est embêtant.
Ouais.
C'est ce que disait Churchill. Moi, je ne fais pas confiance à une statistique si je ne l'ai pas bidouillé moi-même.
Ouais, c'est ça, oui. Non, c'est sûr, oui, les statistiques peuvent être utilisées de plusieurs manières différentes. En plus, il y a toujours une manière de les bidouiller. Parfois, une statistique peut être utilisée pour dire deux choses. Parce qu'on
dit, on voit de statistiques à l'université, c'est que si vous faites une fausse statistique, il faut toujours qu'elle ait deux points après la virgule. Parce que vous dites, la productivité va baisser de 3%. Tout le monde dit, 3%, je suis allé chercher ça encore. Si vous lui dites 3,27 ou 3,27,5, à ce moment-là, ça fait vachement sérieux. Quoi.
Ouais. Ouais, bah là, le chiffre que j'ai eu, c'est 3,6. C'est entre deux.
C'est entre deux, voilà, voilà. Mais je suis sûr qu'il y avait un autre chiffre derrière encore.
Ouais, peut-être. Alors c'est quelque part limite la même question, encore une fois. On a eu une hausse des impôts de 7,9%, pardon. Donc je cite Le Point, hein, qui parle de ça. Jamais la France n'avait collecté autant d'impôts et de cotisations sociales en proportion de la richesse nationale. Les impôts ont augmenté donc de 7,9% en 2022, soit 45,3% du PIB.
Ah, j'ai comme un grand moment de lassitude. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire qu'il pique 45% en impôts, mais ça ne veut pas dire que le déficit a été réduit.
Ah non, pas du tout. Non.
Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils réussissent à avoir... un déficit qui doit être de 5% du PIB, c'est-à-dire que si vous faites le rapport dépenses de l'État sur recettes de l'État, les dépenses de l'État doivent être, je ne sais pas combien, 20 ou 30% supérieures aux recettes de l'État. Donc, parce que vous et moi, quand on calcule nos déficits à la banque, quand la banque nous appelle, c'est parce qu'on a eu un trou dans recettes moins dépenses.
Oui, c'est parce que oui, la banque, oui, la banquière, elle n'hésite pas à m'appeler dès que j'ai moins 30 euros sur mon compte. Alors là, c'est allô, oui.
Et vous commencez à transpirer abondamment quand vous ouvrez l'enveloppe en vous disant, il y a deux enveloppes, c'est celle qui arrive de la banque qui me donne des soucis. Et pourtant, j'ai pas eu de soucis depuis 40 ans, mais je me souviens de mes années de jeunesse où quand la banque m'écrivait, c'était pas pour me proposer quelque chose, quoi. Et le deuxième, c'est quand je reçois un truc de la République française. Je me dis, vain Dieu, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête, vous savez, là, avec la petite enveloppe bleu, blanc, rouge et le sigle. Et c'est donc on sait très bien que ce qui arrive de la banque ou ce qui arrive de l'État, en général, c'est pas pour vous annoncer une hausse de votre niveau de vie, quoi. Et tant que les Français continueront à penser que l'État est la solution et que ils continueront à être tendus. Ce que disait Colbert, c'est il faut tondre les Français, mais il faut s'arrêter de les tondre quand ça commence à saigner, quoi.
Ouais.
Et ben, là, ils sont pas arrêtés, quoi.
Ouais. Mais alors moi, je crois que ce qui m'horripile le plus face à ce genre d'information, c'est quand après on reproche à Macron d'être trop libéral.
Oui, de faire monter le poids de l'État dans l'économie, c'est libéral.
Oui, oui, voilà.
Il a ce qu'il a fait de mieux. C'est à peu près la seule chose qu'il a faite, d'ailleurs. Il est arrivé aussi, mais vous pouvez lui imputer aussi la baisse de la productivité, parce que c'est lui qui a vendu des tas de fleurons d'industrie à l'étranger, qui promettait la main sur le cœur de garder les choses en France, mais qui, deux ans après, a fermé les usines, allait les ouvrir où c'était moins cher. Donc, quelque part, si vous voulez, il y aurait une certaine justice immanente à ce que ce soit Macron qui est à traiter cette espèce de crise qui va nous tomber dessus.
Ouais. C'est vrai que quelque part, je suis content qu'il ait encore 4 ans à gérer, là.
Oui.
Parce que c'est vrai que si là, quelqu'un d'autre venait de se faire élire, il aurait à assumer les conséquences que Macron n'a pas pu assumer encore. Donc, quelque part, ouais, il y a une forme de justice là-dedans.
Il y a une forme de justice. Et les choses ont une durée très longue. Je me tue à dire, par exemple, que l'Allemagne a réformé son marché du travail à la fin des années du XXe siècle, là. Elle a fait, ça a été très dur, le rapport Chartres et tout, voilà, ça a été très bien. Et pendant ce temps-là, nous, on faisait passer le temps de travail à 35 heures, vous savez. Et donc, tant qu'on continuera à faire des réformes pour que les gens travaillent de moins en moins, et la contrepartie, si la productivité baisse, c'est que leur niveau de vie va être encore moins, baisser de plus en plus, et de façon accélérée. Donc, à un moment ou à un autre, les Français vont peut-être se rendre compte que de tous les pays européens, c'est eux qui travaillent le moins.
Mais ça, c'est le paradoxe français. Pendant que les États-Unis avaient Reagan et qu'il y avait Thatcher outre-Manche, nous, on venait d'élire François Mitterrand.
Nous, la France a toujours été à l'avant-garde des mouvements d'arrière-garde, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on fait, si vous êtes devenu socialiste dans les années 60, allez. C'était pas malin, mais c'était pas trop dramatique. Mais si vous le deviez au début des années 80, fallait vraiment être crétin 5 ou 6 ans avant l'écroulement du mur de Berlin. C'est fallait fallait avoir un niveau d'irréalisme. Et je crois que ça vient aussi beaucoup du fait justement qu'il y a une trop grosse partie de l'emploi qui est dans le système étatique. Donc ces gens-là, ben, dans le fond, ils sont payés par les impôts. Vous savez, j'ai toujours dit qu'il y avait trois sortes de gens. On était payés par trois entités. Hein. Ou bien vous êtes payés par une entreprise en tant que cadre ou en tant que salarié. Bon, ça, donc, vous prenez quand même un risque assez important parce que l'entreprise peut faire faillite, vous pouvez être viré. Donc. Ouais. Vous pouvez être payé par l'entrepreneur. Par quoi il est payé? Par les profits. C'est-à-dire il est payé si, une fois qu'il a tout payé, il lui reste quelque chose, quoi. Sinon, il touche rien. Donc, lui, il prend un risque vraiment immense. Et puis ensuite, vous pouvez être payé par les impôts. Et ceux qui sont payés par les impôts, ils prennent un risque zéro. Ouais. Parce qu'ils ne sont jamais virés, il leur arrive jamais rien. Qu'ils fassent, qu'ils bossent, qu'ils ne bossent pas, tout le monde s'en fout. Ils avancent en ancienneté, ils n'en ont rien à foutre. Donc, un système fiscal qui devrait marcher, ça devrait être de ne pas taxer l'entrepreneur du tout. Parce que quand même, lui, il est à 100% de risque. De taxer très modérément le salarié du secteur privé et de douiller avec beaucoup d'autorité sur le secteur public, quoi. Et on fait exactement l'inverse. Donc, bah, du coup, on n'a plus d'entrepreneurs, bah, du coup, on n'a plus de salariés, du coup, on n'a plus que l'État. Et on se retrouve en Union soviétique et le niveau de vie va s'effondrer. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse?
Ouais. Oui, c'est vrai que au final, le seul secteur qui survit, c'est celui de l'État, quoi. Donc, à partir du moment où
ben voilà.
Ça, je vois pas trop où on peut aller.
Ben, c'est pas l'État qui va faire monter votre niveau de vie. Hein.
Ouais.
Sinon, l'Union soviétique aurait marché, ça se saurait. Hein.
Et ça me permet de faire le pont avec encore un nouveau sujet. Le saviez-vous, Charles, les Français sont très performants dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Ben oui, mais pas chez nous.
Pas chez nous, exactement.
Oui, oui, ça, ils vont le faire. Mais vous savez, encore une fois, les Français sont intelligents, sont travailleurs, du moins une partie de la population. Et dès que le type se rend compte que s'il reste en France au CNRS, il sera payé 2 300 € par mois si tout va bien, en fin de carrière ou je ne sais pas combien, et s'il part enseigner dans une université américaine, il sera payé 10 ou fois ça, ben, vous n'êtes pas... Vous dites, bon, ben, j'aime bien la France, mais quand même, 2 300 € contre 23 000, c'est pas pareil, quand même.
Ouais. Oui, c'est sûr. En plus, on n'est pas hyper attaché en France au patriotisme. Donc, s'il n'y a même plus ça pour retenir quelqu'un...
Il y avait aussi ce qui retenait beaucoup les choses en France, c'est qu'ils ne parlaient pas l'anglais.
Ouais.
Parce qu'au moins, dans cette génération actuelle, ils ont vaguement appris à parler l'anglais.
Ouais.
Et ils se dépatouillent pas de quelque chose. Je vous dis toujours, dans l'université de mon fils à Duke, là, qui est une grande université américaine, eh bien, il y avait... il faisait des tas de travaux très intéressants sur la théorie des jeux. Vous savez, c'était quelque chose qui était à la limite de les mathématiques, de l'économie, c'est un truc très balèze. Et en principe, tous les meilleurs dans la théorie des jeux, enfin beaucoup des très bons, c'était des gars qui avaient fait normal sup maths, quoi. Ben, je crois qu'il y en avait deux à Duke, qui venaient du CNRS. Ben, les types s'étaient dit, bon, ben, ça va bien, quoi.
Ouais. Non, c'est pas étonnant. J'ai vu que...
Mais c'est Mbappé, quoi.
Ouais.
Si vous mettez Mbappé dans un club de CFA... Ben,
oui, mais c'est sûr, il va surclasser tout le monde, quoi.
Mais il va surclasser tout le monde, mais il va pas être très bien payé, le pauvre garçon. Alors que vous l'envoyez au Real Madrid et il va faire des étincelles.
Oui, ça devrait aller.
Donc...
Mais oui, on a à peu près 3000 Français juste à San Francisco dans le domaine de la tech.
C'est ça? Ils sont tous des ingénieurs de très haut niveau.
Et c'est ce genre d'entrepreneurs ou d'ingénieurs qui seraient capables à eux seuls de créer une valeur complètement dingue s'ils étaient en France, s'ils étaient correctement
payés. Vous avez, monsieur, tout ça est un peu désolant, mais je peux vous raconter de l'histoire. C'est qu'encore une fois, les Français sont des matheux. Bon, sont des matheux. Et tout ce qui touche au marché obligataire, c'est des trucs de maths, hein, beaucoup. Vous savez, c'est bon, le produit dérivé, tout ça, c'est faut faire des calculs, c'est. Bon, c'est un truc matheux, le marché obligataire, les actions, beaucoup moins. Eh bien, les Français avaient inventé quelque chose qui s'appelait le futures market sur les taux, qui était une invention tout à fait étonnante. On se développait comme des fusées dans tout ce qui était taux, protection contre la hausse des taux, marché des produits dérivés, etc. Et puis, je crois que le ministère des Finances a trouvé que ces gens-là étaient trop payés. Et on a commencé à les embêter, et finalement, ils sont tous partis pour Londres, et maintenant, ben voilà, ils ont créé je ne sais pas combien de grands hedge funds, spécialisés dans le marché obligataire, et qui sont français, mais qui sont là-bas. Et vous dites, mais jusqu'à quand les Français, l'administration française pensera-t-elle que son devoir, c'est de virer les gens les plus compétents en France, de façon à ne pas leur faire de concurrence?
Ouais, j'ai l'impression que c'est sans fin, là c'est...
Mais ça a commencé avec les protestants sous Louis XIV, hein.
Oui.
Puis après ça, on a liquidé tous les aristos, y compris quelques scientifiques comme Lavoisier au passage. La République n'a pas besoin de savants, disait ce crétin de Fouché-Tinville. Alors que c'était le type, on lui aurait laissé vivre, c'était un profond génie. Il aurait sans doute. Le développement de l'industrie chimique qui a eu lieu en Allemagne 50 ans après, c'était chez nous que ça devait se passer, quoi. Et on l'a coupé la tête, quoi. C'était donc un niveau de crétinerie qui dépasse l'entendement. Il s'occupait pas de politique, lui, hein, c'était pas son truc. Enfin, voilà. Et donc on continue à faire ça, puis après ça on a viré tous les personnels des écoles chrétiennes à la fin du 19e, au grand moment de l'arrivée du monde laïque en France. Mm-hmm. Puis après on a viré tous les juifs, et puis maintenant on est en train de virer tous les entrepreneurs. Et on se demande, et pourquoi ça marche pas chez nous?
Ouais.
Mais si on virait plutôt les énarques?
Ouais, ça me paraîtrait un bon plan. Ouais, ouais.
Ça me paraîtrait un bon plan. On interdit aux énarques d'aller. En fait, d'abord, on ferme l'ENA, on ferme la Cour, on ferme l'École nationale de la magistrature, on ferme un certain nombre de trucs comme ça qui servent à rien. Et puis voilà, quoi. Vous fermez tous les Sciences Po partout, qui sont des repères de gauchistes invraisemblables et d'une bêtise qui dépasse l'entendement. Et puis voilà, quoi. On peut vivre sans sciences politiques. Hein.
Je suis à peu près certain que. Seul un gouvernement de droite radicale permettrait de faire revenir ces gens en France. Parce qu'il faut une baisse d'impôts et...
Il faut un changement, c'est un peu ce qu'avait fait Mme Thatcher, c'est-à-dire qu'elle a fait un changement dans l'esprit, c'est-à-dire...
Il faut
expliquer aux gens que on va plus jouer aux règles habituelles, c'est-à-dire qu'on vous fait rentrer, puis ensuite, dès que vous êtes là, que vous êtes coincé, on vous augmente les impôts. C'est-à-dire qu'on met, par exemple, une limite maximum de 30% sur les impôts que vous pouvez prendre sur une personne, ouais. Et puis c'est tout. Mais constitutionnel, intouchable,
ouais.
Parce que sinon, jamais ils reviendront.
Ouais.
Et puis, ils feront une filiale au Luxembourg, puis ils viendront en France, mais c'est tout, quoi.
Et puis, il faut aussi rétablir l'ordre, parce que, je veux dire...
Il faut rétablir la loi, quoi, c'est tout, ouais, pas l'ordre.
Parce que s'ils ont des enfants qui veulent foutre à l'école, c'est pas forcément toujours hyper recommandable à Paris.
C'est que toute cette classe dirigeante met ses enfants dans les écoles du secteur privé, jamais dans la Seine-Saint-Denis. Hein.
Oui, évidemment. Oui, on a eu ce truc-là. C'est passé comme une lettre à la poste, ça m'étonne encore, mais oui, Pape Ndiaye a ses enfants à l'école alsacienne, quoi.
Tous les dignitaires du Parti Socialiste avaient leurs enfants à l'école alsacienne.
Oui. Et après, il va nous faire des leçons d'inclusion, etc., à l'école publique pour nous dire « Oui, voilà, c'est important d'avoir tout le monde à l'école publique. » Mais casse-toi, mec. Enfin, bref. On a une question de Frédéric, un auditeur de ces émissions, qui nous dit « Que pensez-vous ?» Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais moi, je trouve ça très pertinent. Twitter, en fait, maintenant, inscrit sur le profil des médias en ligne lorsqu'ils sont payés par un gouvernement.
Oui.
Donc ça a été fait, par exemple, très promptement avant l'arrivée d'Elon Musk. Ça a été fait notamment en premier sur les médias russes, mmh. Ou les médias chinois. On savait...
Ils vous mettent une petite note, en bas, c'est payé par un gouvernement étranger.
Voilà, ce média est financé par le gouvernement russe. Bon, et ben maintenant, on a cette mention, mais dans tous les pays du monde, en tout cas, là, c'est arrivé en France, on l'a sur France Télévisions, donc c'est sympathique, on a un petit peu plus de transparence de ce côté-là. Comment vous analysez, là, sur le moment, cette information?
Ben, si vous voulez, ça part d'un principe philosophique assez simple, c'est l'ennemi de tout citoyen, c'est son État. Donc si l'État se sert de l'argent des impôts pour influencer le citoyen, le moins qu'on puisse demander, c'est que le citoyen soit rappelé à l'ordre en disant, vous savez, vous n'êtes pas obligé de croire cette information parce que le type qui la donne, il n'est pas complètement objectif. On est arrivé, encore une fois, à une inversion de la pensée, de penser que quelqu'un qui dépend de l'État sera objectivement, intellectuellement honnête. Or, toute l'histoire prouve le contraire. Donc on vous dit, si vous êtes payé par le secteur privé, vous êtes malhonnête intellectuellement, parce que vous suivrez les ordres de je ne sais pas qui. Mais si vous êtes payé par le secteur public, vous serez une merveille d'intégrité intellectuelle. Mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? Ils n'ont pas lu la Pravda, ils n'ont pas lu les Izvestia, ils n'ont pas lu l'histoire de l'humanité. Quand c'est le gouvernement qui donne l'information, en principe, c'est de la perte du même principe, si vous voulez, que quand je dis toujours, si le gouvernement vous donne un avantage fiscal pour acheter quelque chose, c'est qu'il ne faut pas l'acheter. Parce ouais. que si c'était une bonne affaire, il ne vous le proposerait pas. Quoi.
Oui, oui.
Donc, pourquoi ce qui marche pour les affaires ne marcherait-il pas pour les informations?
Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, on voit ça hein, sur, par exemple sur l'achat de panneaux solaires. Mmh. Maintenant, il y a tout un tas de scandales là-dessus. Mais oui, l'État, par exemple, permettait une aide financière pour acheter des panneaux solaires. Et il y a des gens qui se retrouvent avec des panneaux solaires qui ne marchent pas, qui ne sont pas du tout rentables.
Qui ont été faits en Chine, d'ailleurs.
Et qui ont été faits en Chine, ouais.
Enfin, en Chine. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on achète des panneaux solaires en Chine qui auront une durée de vie de 30 ans. Et la façon dont les Chinois le font avec du charbon, fait que le panneau solaire que vous achetez là, il va devenir, compte tenu du CO2 qu'il a envoyé, il va devenir neutre CO2 ou positif CO2 au bout de 30 ans, au moment où on le mettra à la poubelle. Donc il faut être complètement crétin pour faire un truc qui est neutre ou négatif CO2, et en plus qui n'est même pas fait chez nous.
Ouais.
C'est-à-dire, on atteint des niveaux de bêtises. Mais ce que je veux dire.
Et on subventionne ça.
Et on se dit, on subventionne ça. Donc ça veut dire qu'on est arrivé maintenant dans une société magique. Où si j'ai de bonnes intentions, vous ne pouvez pas m'en vouloir.
Ouais, on gouverne.
Mais si
avec
on peut t'en vouloir
idées.
D'avoir été bête comme un noir.
Ouais.
Et on peut te virer surtout. Mm. C'est ce que disait toujours, encore une fois, ce brave Milton Friedman, buvons un coup. Il disait toujours les politiciens ne changent jamais. C'est les électeurs qui doivent changer de politicien.
C'est vrai.
C'est une idée profonde.
C'est vrai.
Donc, il n'y a rien à espérer de cette classe.
C'est vrai. Et alors, en parlant justement de médias financés par le gouvernement, pour avoir un petit exemple quand même de ce qu'on y trouve, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé le service public, et l'autre jour...
Vous n'êtes pas le seul, hein.
Oui, je suis pas le seul, effectivement. Et l'autre jour, alors je rentre de TD à 22h, je suis un peu fatigué, je me pose devant la télé, machin. Donc je regarde la fin d'un match de Ligue des Champions, et après je regarde France 5. Et alors le soir, sur France 5, il y a l'émission C'est ce soir. Et alors là, j'ai vu le truc, mais c'était lunaire. C'est-à-dire que la semaine dernière, Valeurs Actuelles avait organisé une grande soirée, un grand débat au Palais des Sports. Et parmi les invités, il y avait Hugo Clément, qui est donc un militant pour la cause animale, contre la souffrance animale. Donc il est contre la chasse, il est contre tout ça. Et il avait accepté de venir, de discuter voilà, avec Jordan Bardella devant tout le monde. Et il a été assez salué d'ailleurs par le public pour, parce qu'il a joué le jeu, tout
oui,
simplement,
oui,
du débat.
Parce qu'il y a des tas de gens qui aiment les animaux et qui doivent comprendre.
En plus, oui, au RN, il y a un peu cette idée-là, quoi. Donc, pas mal de gens, en plus, apparemment, selon lui-même, sont venus dans ses messages privés pour lui dire, écoutez, bravo pour votre démarche. J'avais pas vu forcément les choses sous cet angle-là. Vous m'avez fait réfléchir. Voilà,
c'est à ça que sert la démocratie. Hein.
C'est à ça que sert la démocratie et le débat d'idées, parce que sinon, si on fait des bulles et qu'on n'est que entre nous, ça n'a pas énormément d'intérêt.
C'est vachement bien de discuter avec des gens qui sont d'accord avec vous, parce qu'on n'est jamais agacé, quoi.
Et donc, moi, je me dis, je vois ça, c'est jackpot pour Hugo Clément, qui sort un petit peu juste de sa zone de confort pour aller parler à un autre public et qui, en plus, rencontre partiellement du succès dans ce public-là.
C'est très bien.
Et il a été invité en tant que représentant de l'extrême droite radicale dans cette émission C'est ce soir, alors que c'est un militant de gauche depuis toujours, qu'il a été journaliste chez Quotidien, etc. Donc je veux dire, et en plus il a lui-même une émission d'ailleurs sur le service public, donc je veux dire, le mec a fait ses preuves quand même. Et il était donc face à 5 invités qui devaient en quelque sorte débattre de si Hugo Clément était toujours un être humain ou pas, parce que le débat c'était en fait doit-on discuter ou pas avec l'extrême droite, et donc tout le monde y allait un petit peu de ses arguments en mode non, on peut pas débattre avec Jordan Bardella, ou alors on peut débattre avec lui mais dans certaines conditions, en l'invitant chez nous mais pas nous en allant chez lui voir Valeurs Actuelles. En plus de ça, Hugo Clément se défendait en disant voilà, c'est normal d'aller voir quand même les électeurs RN parce qu'ils sont des millions, parce que c'est quand même il y a 40% des votants qui ont ont choisi Marine Le Pen au second tour la dernière fois. Et donc, il y en a qui disaient, bon, à la limite, parler aux électeurs du RN, c'est une chose, sauf que parler aux électeurs de Zemmour, c'est pire, parce qu'en fait, apparemment, à Valeurs Actuelles, il n'y a que des électeurs de Zemmour. Donc, bon, c'était un truc complètement lunaire, où il n'y avait que des gens de gauche, et où le seul représentant, a priori, de la droite, c'était un mec de gauche qui avait accepté de débattre avec la droite. J'ai trouvé ça, mais complètement dingue. Complètement
mais vous savez, c'est amusant, parce que ça me rappelle des expériences personnelles. Moi, à un moment, j'étais invité, je ne le sais plus, sur des plateaux de télévision ici ou là, pas de très importants, mais enfin, mettons, où l'esprit dominant était quand même très à gauche. Et donc, ils mettaient quatre mecs de gauche, avec des points de vue un petit peu différents, et puis ma pomme, et donc j'apparaissais toujours comme le fou.
Ouais.
Donc ils invitent des gens de droite pour le faire apparaître comme le mec qui a des idées complètement imbéciles. En général, je les ratatinais de toute façon, parce que j'ai pas peur de me battre à tout seul contre 4 ou 5, mais je dis pas ça par vantardise, mais c'est comme on sait exactement ce qu'ils vont dire, c'est pas très difficile de les envoyer bouler, quoi. Mais c'est la technique, c'est-à-dire qu'en mettant une majorité de gens dans les débats qui sont du même côté, vous faites passer de façon subliminale l'information dans le public que ces 4 ou 5 sont la majorité. Alors que c'est peut-être celui qui est tout seul qui, en fait, représente la majorité du peuple et eux qui représentent une série de salopards.
Oui, tout à fait.
Qui sont arrogés le pouvoir et qui trichent, qui volent, qui mentent. Eh bien, c'est ce qui se passe. Mais ils se sentent confortés dans leur idée qui représente la majorité. Et là, ce qui m'inquiète le plus, il y a deux choses qui m'inquiètent beaucoup chez ces gens-là, que je vois arriver gros comme une maison, c'est que comme ils ne sont plus la majorité, ils ne trouvent pas que le vote, ça soit une si bonne idée. Vous savez, c'était la blague de Coluche. Le vote, ça change rien, parce que si ça changeait quelque chose, il y a longtemps qu'ils l'auraient interdit. Donc ils se disent, bah, tiens, on va peut-être l'interdire, parce que dans le fond, on va interdire aux gens de voter pour Le Pen. Et la deuxième, c'est les gens qui défendent les idées de Mme Le Pen, de quelque part, ou de son père, ou de je ne sais pas qui, quelque part, ces idées-là, étant irrecevables, ne peuvent pas être publiées. C'est-à-dire qu'ils sont pour la censure. Donc je vois avec stupéfaction la gauche devenir contre la démocratie et pour la censure.
Ouais.
Et pour moi, ça, c'était ça. Alors là, ça me laisse pantois, ça.
Évidemment. Et pareil, c'est pour ça qu'ils ont une telle détestation aussi des médias en ligne, oui, sur Internet. C'est parce que comme ils avaient un monopole de l'information par le biais de la télévision et qu'il fallait donc des autorisations pour être là-dessus, ils sont concurrencés en termes d'audience par des médias d'Internet. On en fait partie partiellement. Et donc forcément, ils détestent ça puisqu'ils se disent, mais on avait un monopole sur le public. Les seules chaînes sur lesquelles ils pouvaient aller, bon, bah, elles étaient quand même agréées par l'État, elles étaient surveillées par le truc de surveillance.
Il faut m'expliquer pourquoi y aurait-il des chaînes d'information ou des journaux, etc., qui appartiennent au gouvernement.
Pour moi, il n'y a aucun argument.
Il n'y a aucun argument, il faut fermer tous ces trucs-là. Si vous voulez faire des économies, vous fermez France Inter, vous gardez peut-être les orchestres ou je ne sais pas quoi. Le côté culture, mais vous fermez bien tout le reste, quoi. Ça, ouais, sert à rien.
Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien France Culture, mais franchement, à part France Culture, je vois pas grand chose à sauver. Et même France 5, dernièrement, ces dernières années, c'était pas trop trop mal. Il y avait quelques programmes que je pouvais apprécier, mais enfin, là, les émissions comme ça, je veux dire, d'une part, c'est pas honnête, et en plus de ça, c'est vraiment une insulte aux impôts des Français, quoi, parce qu'ils sont financés par ça. Donc, je trouve ça complètement dingue. Et c'est en plus.
Ou alors, non, même pas, il n'y a même pas besoin de leur faire gratuitement, quoi.
Ouais.
Il faut fermer, il faut que, s'ils ont un public, il faut qu'ils le monétisent, ouais, qu'ils gagnent de l'argent avec. S'ils ne peuvent pas gagner d'argent avec, ben c'est bien triste, mon pauvre monsieur, mais allez vous faire cuire un œuf, quoi. De la même façon, il faut que cesser les subventions aux syndicats. Il n'y a aucune raison que les syndicats du secteur public, puisqu'il n'y a plus que ça, soient financés par nos impôts.
Ouais.
Normalement, un syndicat, c'est financé par les gens qui sont dans le syndicat, et c'est tout. Or, on y a un parlementaire qui avait fait une commission d'enquête sur les syndicats, pour savoir d'où venait leur argent, etc. Il a fait tout le travail, et on lui a interdit de publier son enquête. Et je crois que c'était sous Sarkozy, c'est pour vous dire si c'est pas nouveau. Donc, il y a toute une série d'utilisations de l'argent public qui sont faites au profit d'un certain nombre de groupes de pression parfaitement illégitime, et nous n'avons pas en tant que citoyens le droit de savoir comment notre argent est dépensé. Ouais. C'est-à-dire c'est le contraire même de la démocratie.
Ouais. Oui, il y a un principe normalement de consentement à l'impôt, on sait normalement où va l'argent, etc. Là, c'est pas tellement le cas, quoi. Et ça me permet de faire un pont absolument parfait, puisque en parlant de financement public, nous l'avions très légèrement évoqué en fin d'émission la dernière fois, on a le fonds Marianne. Alors, le fonds Marianne, c'est pas non plus le scandale du siècle, je veux dire, en termes de sommes léguées, parce que c'était 2,5 ou 3 millions d'euros. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont cet argent a été distribué. On a eu un petit peu trois temps hein, de révélations sur cette affaire. Dans un premier temps, on a appris. D'ailleurs, pour une fois, c'est France 2 qui nous l'a appris, donc... Bien joué France 2. Mais une partie des fonds donc a été allouée à des associations. Donc par exemple 260 000 euros pour l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire, dont les dirigeants se sont rémunérés à hauteur de 120 000 euros. Un des dirigeants étant nul autre que Mohamed Sifaoui. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est un type qu'on voyait beaucoup sur les plateaux télé pour faire la morale à tout le monde. Et alors pourquoi faire en fait ce fonds? C'était un fonds qui a été créé par Marlène Schiappa après la mort de Samuel Paty pour essayer de lutter contre l'islamisme en ligne, quoi. C'était un truc en mode bon voilà, on vit tous ensemble dans une république laïque, youpi, c'est génial, tralala. Et donc pourquoi cette association a reçu 260 000 euros? Eh bien, c'est pour produire 13 vidéos avec donc de cet argent public. Et 13 vidéos ne dépassant pas en moyenne les 50 vues. C'est quand même intéressant, parce qu'il faudrait voir.
On peut en avoir un peu?
Ah ouais, moi je demande d'en avoir un peu. Parce que là, franchement, avec...
Oui, 50 vues, attendez-nous, on en fait 100 000. Donc, 100 000, donc ça nous ferait un petit peu d'argent, ça aiderait les... On pourrait dire, continuer à dire du bien des gens. Mais ça veut dire simplement qu'il y a toute une industrie qui est branchée, c'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence, sur la façon dont il faut piller l'État, ouais, par des subventions. Et il y a deux choses qui se passent qui me gênent énormément. D'abord, c'est le pillage de l'État. Et ces gens-là, en général, ont des voitures de fonction, des secrétaires, des bureaux, des, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils vivent bien, des cartes de crédit avec lesquelles ils vont dans les meilleurs restaurants. Tout ça, c'est parfaitement... Mais la deuxième chose qui se passe, c'est que ce sont des groupes de pression. Ces groupes de pression, ensuite, militent pour que des transferts de souveraineté de l'État soient faits en fonction de... Ce ne sont pas des administrations, ce ne sont pas des trucs du secteur privé, c'est des NGO, vous savez, c'est des espèces de trucs non-governmental organizations.
Ouais, des associations énormes, quoi.
Des associations énormes, et ces gens-là, par exemple, à Bruxelles, c'est eux qui, littéralement, font toutes les nouvelles réglementations. Donc, maintenant, en quelque sorte, c'est une espèce de mouvement vers la subvention qui permet à des gens de faire ensuite monter des subventions qui seront contre l'initiative individuelle, ouais, qui permettront de nous ruiner, qui font qu'on aura, on sera obligé, je sais pas quoi, de mettre un casque quand on est sous la douche, enfin, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Et donc, je vois très bien le double mouvement. Tout ça, ce sont des façons pour capturer l'argent public et enlever tout pouvoir du citoyen de vérifier la façon dont son argent est dépensé, parce que chaque fois on dit, vous allez pas quand même être contre, pour les gens qui coupent la tête des professeurs d'histoire ou je sais plus quoi dans les lycées. Personne n'est pour ces gens-là. Mais il n'y a aucune raison qu'on bâtisse une espèce de petit ruisseau qui va permettre de... Et tous ces petits ruisseaux sont sans doute la totalité de notre déficit budgétaire.
C'est totalement possible, oui.
Et donc la première des choses que devrait faire un vrai gouvernement, c'est de supprimer toutes ces subventions.
Ouais. En vrai, c'est hallucinant. L'argent qu'on dépense pour des associations, il est chaque année de plus en plus élevé. Alors même que notre déficit n'est jamais comblé. Enfin, je trouve que on ne devrait pas donner de l'argent
et
à des associations comme ça.
D'abord, il n'y a pas de raison de donner de l'argent à des associations. Les associations devraient recevoir aucun argent de l'État. Elles peuvent survivre avec les cotisations de leurs membres ou elles disparaissent.
Ouais.
Mais il n'y a pas de raison de donner de l'argent public à des œuvres, etc., qui sont pas supportées par leurs propres membres.
Ouais, c'est, en plus, quand on voit ce que ça donne, c'est vraiment de l'argent. Faudrait faire le calcul, voir combien de temps mettrait cette association à réunir autant de vues que nous, quand on fait une vidéo. Franchement, ce serait marrant. Ils mettraient peut-être 5 ou 10 ans.
Ouais. Mais en attendant, ils devraient travailler gratuitement.
Ouais.
Moi, ça me gêne pas qu'il fasse.
Franchement, en plus, j'ai regardé la chaîne YouTube de l'association en question. J'ai regardé le truc, je me suis dit, waouh, ça nécessite au maximum 500 balles. Hein. Franchement, pour faire ce truc, c'est des petites vidéos.
Mais vous vous souvenez
vraiment
de cette
nul.
Histoire qu'on vous avait racontée aussi de ce. Cette histoire qui vous permettait d'avoir accès aux vieux films français, etc. Ils ont dépensé pas quantité de millions d'euros,
ouais.
et personne n'est allé les voir, et c'était quelque chose que vous pouviez faire tourner dans votre cuisine avec deux étudiants, quoi.
Ouais.
Et ils ont dépensé des millions d'euros pour rien.
Ouais.
Mais ça n'a pas été perdu pour tout le monde.
Pour Salto, ouais. Complètement.
Salto, c'est la même, c'est l'histoire de Salto.
Oui, c'est pareil, oui. Il y a un continuum.
Si je pouvais me permettre, dans nos émissions-là, vous devriez chaque semaine aller chercher un de ces trucs-là pour dire et le Salto du mois, c'est. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, bah là, c'est un gros Salto. C'est le Salto du mois, c'est vraiment le fonds Marianne, quoi. Et donc, dans un deuxième temps, on a appris que ce fonds avait aussi subventionné donc encore une autre association. Il y a, je sais plus, quasiment une vingtaine d'associations. Donc, reconstruire le commun avec 330 000 euros. Donc, reconstruire le commun avait été créé pas longtemps avant la création de ce fonds-là. Donc, je ne sais pas s'ils avaient déjà prévu d'avoir la subvention ou pas.
330 000 euros, si vous êtes deux ou trois, vous vivez bien.
Ouais, oui, bah, je pense qu'ils étaient un peu plus que deux ou trois. Et pour le coup, j'ai vu que la chaîne avait beaucoup plus d'activité que l'autre. Mais enfin, quand même, 330 000 euros, ça me paraît énorme. Et donc, l'association fixe son ambition de la manière suivante. Elle se veut donc de déployer un discours républicain adapté aux codes et références culturelles des 18-25 ans sur les réseaux sociaux et sur le web sous forme de vidéos, visuels, mèmes, interviews, reportages, documentaires et événements. Donc, cela a bien été effectué de janvier 2022 à août 2022. 57 vidéos ont été réalisées et diffusées, mais celles-ci et leur teneur interrogent, ça c'est ce que dit Mediapart. Donc moi aussi j'ai regardé un petit peu la chaîne. Effectivement, alors il y a quand même beaucoup plus d'activités que sur la chaîne précédente. Mais ce qui interroge un peu, c'est que c'était une association, enfin une chaîne YouTube très active. En gros, à partir des régionales 2021 jusqu'aux législatives 2022. Donc en fait, pendant la campagne présidentielle. Et j'ai regardé un petit peu la teneur quand même de ces chaînes, de ces vidéos. Et en gros, il y avait cette idée très reprise dans le camp centriste laïque de la fameuse tenaille identitaire, c'est-à-dire que en gros, Mélenchon ça vaut Le Pen, que les deux sont le même mal. En fait, c'est les deux faces d'une même pièce, et que finalement resterait à peu près au milieu un camp de la raison qui, malgré tout, voilà, serait autour d'Emmanuel Macron. Donc on est à peu près dans de la propagande. Complètement dingue.
Mais moi, j'ai toujours dit, en ce qui concerne la démocratie, que la base de la démocratie, c'est de permettre aux gens de faire des conneries. Et si on fait une connerie, à ce moment-là, le peuple s'en rend compte. Et le peuple s'en rendra compte, la fois d'après, il ne vote pas de la même façon. Donc, encore une fois, vous ne pouvez pas protéger par l'appareil étatique les gens contre des bêtises. Il vaut mieux, il faut les laisser faire. C'est comme quand vous éduquez un enfant. Vous connaissez l'histoire du petit garçon qui passe devant sa mère avec sa bicyclette et qui dit « Regarde maman sans les mains, regarde maman sans les pieds », puis la troisième fois « Regarde maman sans les dents ». Il faut que l'enfant se pète les dents et se casse la gueule pour qu'il apprenne. Donc vous pouvez pas. Donc pour moi, la démocratie, c'est d'accepter l'erreur. Et de dire c'est une erreur, et voilà quelles en seront les conséquences. Et la fois d'après, les gens se souviennent. Et c'est peut-être pour ça que la démocratie suisse marche mieux. Parce que les gens, j'imagine qu'ils ont fait des votes idiots, les Suisses, comme tout le monde. Mais qu'ensuite, ils se disent, c'était pas une bonne idée. Donc, encore une fois, cette volonté, c'est toute la différence entre les deux droits. Vous savez, on en a souvent parlé avec Philippe Fabry. Le droit français, c'est un droit de code. On essaye de prévoir toutes les conneries que peuvent faire les gens et leur interdit. Et le droit anglais, c'est de laisser faire les gens, puis quand ils ont fait une connerie, on dit ça, c'était une connerie, et on fait une loi après pour empêcher cette connerie. Mais tant que le type a pas... tant que personne ne s'est servi de cette liberté pour faire une vraie connerie, elle est de droit, quoi.
Oui, en plus de ça, c'est vraiment... C'est des arguments... C'est un truc qui revient très souvent, c'est, vous savez, le fameux cercle de la raison.
Bon, ça, c'est, de la raison est fait par des inspecteurs des finances. Le cercle de la raison, c'est qui nous amène toutes les affaires en faillite vite fait, quoi. Donc, non, mais,
c'est la même idée d'ailleurs que le champ républicain. Enfin, c'est que des notions qui sont faites pour sceller le pouvoir.
Beaucoup. C'est pour sceller le pouvoir, pour qu'il garde le pouvoir. Mais ce qui m'ennuie beaucoup dans tout ça, si vous voulez, c'est que tous ces gens-là parlent sans arrêt de la République. Ouais. La République, la République, la République. Mais aujourd'hui, ce qui est en danger, c'est pas la République tellement, c'est la France.
Oui.
Donc, moi, j'aimerais bien que de temps en temps, les gens me parlent de la France, parce que la France existait avant la République.
Oui.
Et ils me parlent de la République, mais ça a commencé en 1793, hein, quand on a guillotiné le roi. Mais avant, il y avait quelque chose.
Ouais. Et il n'y a qu'une seule France, alors que la République, c'est quoi la République ? La République de Robespierre, c'est pas celle de Jules Ferry. Celle de Jules Ferry, c'est pas celle de Charles de Gaulle. Et celle de Charles de Gaulle, elle ressemble pas tellement à la nôtre aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que la République ?
Et puis, tu vois, on en a déjà eu 5 des Républiques. Et pour l'instant, les 4 premières, ça s'est pas bien terminé, quand même.
Ouais.
Donc, toutes les.
Là, la cinquième, c'est en train de tourner vinaigre.
Tourner vinaigre. Donc, je veux dire, écoutez, dire que le but ultime dans la vie, c'est de maintenir un régime qui nous a emmenés 5 fois dans une merde noire. Je suis pas contre la démocratie, mais la forme de démocratie qu'on a choisie, c'est-à-dire cette espèce de gestion par des élites autoproclamées, ça a jamais marché. Donc, il faudrait peut-être dire, suce à la République et passons à la démocratie directe et débarrassons-nous de la République.
Ouais.
Ou alors, je dis rien, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que si 5 fois vous suivez les mêmes procédures et 5 fois vous arrivez à un coup, on a Napoléon et puis ensuite la France est réduite de moitié et tout perdu, puis ensuite on se retrouve après avec, on perd l'Alsace et la Lorraine, et puis enfin je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, après. Je me dis, bon, ben, les gars, il y a peut-être un moment où il faut arrêter de nous bassiner avec la République.
Oui, alors déjà, effectivement, arrêter de nous bassiner avec la République. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, mais la République ne vous appartient pas à vous. Je veux dire, mettre comme ça tous les gens qui votent soit Mélenchon, soit
Mélenchon,
soit Le Pen.
Mélenchon appartient à la République. Hein, voilà. Et Le Pen aussi, il appartient à la République.
Je veux dire, si vous mettez 40% des gens qui ont voté pour Le Pen en dehors de la République, c'est que la République,
elle
est un peu vacillante.
Et puis les 25% qui ont voté pour
voilà,
Mélenchon.
Pour Mélenchon, en plus.
Ça vous laisse quoi, 35% de quoi, de gâteux qui sont à leur tête.
Oui.
Oui, on appelle ça la République.
Oui, ouais, la République, c'est
donc, la République, ils sont aussi que ça paraisse, ils sont en train d'en faire un repoussoir.
Oui. Oui,
là,
moi je serais pour.
Dès que vous entendez le mot République, la République, je me dis, oh là là. Ça y est.
Alors qu'au contraire, ça devrait être quelque chose, on devrait justement être capable de se réapproprier la République et d'en faire quelque chose de sympa, quoi, d'en faire quelque chose de consistant. Parce qu'à chaque fois, en plus, j'avais regardé un truc il y a quelques années, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'avais regardé sur Google, il y a un outil, je sais plus comment il s'appelle, mais il vous permet de taper un terme et de voir le nombre d'occurrences de ce terme dans une langue, sources écrites, donc livres, articles, voilà. Et j'avais tapé le terme « valeur de la République ». Et le terme « valeur de la République », en fait, est apparu à peu près dans les années 90, fin des années 90. Donc en fait, à partir du moment où on commençait à parler justement de ce qui pouvait se passer à l'école avec justement l'islamisme, des trucs comme ça. Donc c'est quand même très drôle, c'est pas vraiment drôle, mais je trouve ça hyper intéressant parce que en fait, les valeurs de la République, on en parle au fur et à mesure qu'elle décline. Et la République, finalement, c'est totalement lié. C'est-à-dire que plus on la sent déclinante, plus on en parle et plus on l'érige comme une valeur incroyable qu'on est incapable, par ailleurs, de définir, en fait, et de défendre par la même occasion.
Oui, et ça, c'est vraiment un truc émotionnel. C'est pas du tout que je sois anti-républicain, question.
Moi non plus.
C'est pas ça, mais je veux dire, les gens se sont emparés, et je retrouve cette histoire du logos, vous savez, c'est-à-dire qu'ils sont emparés d'un mot qui devrait nous appartenir à tous, la République, mais si vous excluez de la République 67% de l'électorat, ça n'est plus une République.
Ouais.
Ce n'est plus une république. Et donc, c'est ça qui me gêne le plus, c'est qu'ils ont fait d'un mot qui devait être, en quelque sorte, porteur pour toute la France, la République française, c'était pas... D'ailleurs, ils disent jamais la République française, ils disent toujours la République.
La République, oui.
La République, parce que ça pourrait être la République. La République, mais ça pourrait être la République française, mais non. Or, dans la Constitution, c'est la République française. Par exemple, dont on peut pas abandonner les souverainetés, ce qu'ils ont fait avec beaucoup d'ambition. Donc, encore une fois, je trouve que c'est ce problème du langage qui est qu'ils essayent de nous manipuler par l'intermédiaire des mots. Et c'est, la République, c'est devenu un outil de manipulation, et moi, je ne l'accepte pas.
Ouais. Non, il ne faut pas se laisser manipuler par ces trucs-là. Parce qu'en fait, en faisant en sorte que la République, comme mot, comme idée, soit un repoussoir, ils veulent justement, enfin, en tout cas, je ne sais pas s'ils le veulent, mais ça a comme effet de placer plein de gens, justement, dans une espèce de méfiance vis-à-vis de la République.
Et surtout, ça veut dire que ces gens se disent je ne suis plus un citoyen, puisqu'ils ne me reconnaissent pas comme tel, et donc je ne vais pas aller voter. Et nous nous retrouvons avec 50% d'abstention, et les gens qui sont élus de ce fait n'ont pas vocation à diriger, puisqu'ils sont minoritaires.
Oui. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, ils placent leur légitimité pas tellement sur la démocratie, mais sur la base des valeurs de la République, valeurs qui ne sont pas définies et qui, en fait, au final, sont définies par ceux qui dirigent la République. Parce que si demain Mélenchon était élu président de la République, la République, ce serait la République de Mélenchon. Donc les valeurs, ce seraient des valeurs d'islamophilie, ce serait tout ça. Quoi.
Non, mais tout ça est très embêtant parce qu'encore une fois, on présente des projets avec des mots qui ne veulent rien dire. Donc ça veut dire que les projets eux-mêmes ne veulent rien dire.
Ouais. Mais d'ailleurs, on le voit très bien. Enfin, c'est complètement désincarné et en plus... ça tient pas debout, cette idée du cercle de la raison que Macron incarnerait la compétence et pas les autres.
Mais écoutez, le cercle de la raison, par exemple, à l'évidence pour ces gens-là, Trump ne faisait pas partie du cercle de la raison et Biden en fait partie.
Oui.
Biden, bon, il est gâteux quand même. Et en plus, tout au long de sa carrière, ça a toujours été une crapule, quoi.
Oui. Et on voit ce que ça donne, en plus, le cercle de la raison, puisque avec tout ce qu'on a évoqué en début d'émission, la hausse des impôts, les faillites d'entreprise, la baisse de la productivité, l'endettement, la baisse du niveau de vie.
L'effacement de la France dans le monde, etc. Tout ça, c'est le cercle de la raison.
Ouais.
Merci, monsieur Minc.
Merci, monsieur Minc.
Ce que disait Revel demain, qui disait, il y a un certain nombre de gens qui se donnent un mal de chien pour travailler beaucoup et avoir toujours raison. Et l'exemple, c'est bien entendu Raymond Aron. Il y en a d'autres qui résonnent un mal de chien pour travailler beaucoup et avoir constamment tort. Et ça, c'est Monsieur Minc.
Ouais.
Et donc, si vous voulez, c'est extraordinaire de voir cet homme qui, depuis 40 ans, pontifie et a toujours tort, surtout. Ouais. Surtout, c'est extraordinaire et on nous le présente comme un grand esprit. Ouais. Et il continue à être interrogé par les journaux. Et donc, vous vous dites, mais... Dans un pays normal, un type qui serait trompé comme ça, qui aurait dit que des bêtises depuis 40-50 ans, il aurait été envoyé à la retraite depuis longtemps.
Oui, à la limite, Minc, on peut l'inviter pour savoir ce qu'il ne faut pas penser.
Sauf que le problème, si vous voulez, c'est que le contraire d'une vérité, le contraire d'une erreur peut être une autre erreur.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
En termes logiques, il n'y a qu'une vérité, mais il peut y avoir 45 erreurs, erreurs.
Tout à fait.
Donc,
c'est vrai.
C'est pas parce que M. Mélenchon est full of shit, comme on dit en anglais, ouais. C'est-à-dire qu'il faut voter pour Mme Le Pen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même... c'est pas automatique.
Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est sûr, il y a plusieurs propositions et qu'une seule vérité. Donc,
voilà, et donc ils disent, nous, on est la seule proposition du milieu, on a raison parce qu'on est au milieu. Mais non, Daladier n'avait pas raison en 1940. Quoi. Il était au milieu lui aussi. Hein.
Oui, ça c'est le sophisme du juste milieu. Celui à ma gauche est un idiot, celui à ma droite est un idiot.
Donc moi, je suis intelligent. Voilà, ça veut dire tu peux être un idiot aussi, mon grand.
Oui, c'est ce qu'on voit très très bien. Et donc pour terminer avec cette histoire du fonds Marianne, eh bien la famille de Samuel Paty a demandé l'ouverture d'une enquête justement sur l'utilisation de ces fonds. Est-ce que ce ne serait pas du détournement de fonds publics? C'est la question.
Que si, c'est.
Pour moi, c'en est complètement.
Que si. Mais maintenant, après... j'imagine qu'on va confier ça à un juge d'instruction qui est très débordé, ça va prendre beaucoup de temps, le dossier va mettre du temps à être étudié. Vous savez, j'ai fait une émission ici sur l'attentat de la rue Copernic, ici, avec, vous savez, qui a eu lieu il y a 40 ans. Il a été jugé la semaine dernière. Quoi. Donc, 40 ans après, bon...
On se souvient que... Enfin, on se souvient. Moi, j'étais pas là. C'était l'extrême droite, en premier lieu, qui avait été...
alors qu'il n'y avait aucune
accusé.
Preuve.
Ouais, aucune preuve, mais...
Bon, en fait, c'est un Palestinien, une série de Palestiniens. Mais en attendant, jusqu'à l'élection de Giscard, on a parlé de la rue Copernic et de l'extrême droite qui avait fait sauter une synagogue, quoi. C'était... Donc là aussi, j'imagine que c'était les gens du juste milieu qui disaient ça.
Oui, tout à fait. Bah, oui, c'était, ouais, c'était les Giscardiens, c'était...
C'est pas les Giscardiens, c'était, les, c'était Le Monde, c'était Libération, c'était... oui, c'était tous les suspects habituels.
Ouais, ce... Le camp du bien, oui.
Le camp du bien. Qui avait aucun doute, c'était des gens d'extrême droite.
Ouais.
L'hydre, l'hydre fasciste nazi redressait la tête.
Oui. Non, c'était sûr. Mais enfin voilà, voilà bon, pour cette émission. On non, a évoqué pas mal de trucs.
Encore une fois, on revient toujours aux deux autres mêmes problèmes, c'est-à-dire la capture de l'État par des groupes qui sont quasiment criminels, et deuxièmement le dévoiement du logos, qui sont les deux façons dont ils nous manipulent.
Ouais.
Ça, on le voit, on le voit, on le voit. Et chaque fois qu'on parle ensemble, on arrive aux mêmes choses. Ouais. Aujourd'hui, le mot qu'on a essayé de mettre en avance de ce dévoiement du logos, c'est le la République.
Ouais.
La République. Mais la République, ça veut rien dire.
Quoi. Oui, ça veut rien dire si on l'explicite pas, si on... Enfin bref. En plus de ça, c'est vraiment ceux qui, par essence, n'ont aucune idée, qui se saisissent de cette idée qui devient vide.
On leur donne les éléments de langage.
De la République. Oui, c'est des éléments de langage.
C'est les éléments de langage. Donc, quand vous êtes coincé dans une discussion, vous parlez des valeurs de la République.
Ouais. Mais j'ai l'impression, quand je vois un petit peu les... quand même des instituts de sondage qui font des études sur la perception de Macron, la perception de Le Pen, machin. Je vois quand même qu'il y a un shift qui était jusqu'à il y a peu pas du tout caractérisé, justement dans cette classe qui a souvent trahi la France, mais qui est malgré tout, selon moi, obligatoire d'avoir dans son camp pour gagner. C'est ce côté un peu bourgeoisie de droite, boomer, etc., qui a quand même de moins en moins de scrupules à se dire, bon, finalement, Marine Le Pen, pourquoi pas, et puis Macron, il est pas aussi bon que ce qu'on nous a raconté, donc peut-être qu'il y aura un changement, je sais pas.
Quand on prend une branlée, en général, on abandonne, cette bourgeoisie abandonne Pétain pour rejoindre De Gaulle en 45. Quand vous inquiétez pas, le nombre de résistants de 45 qu'il y a eu en France, c'était considérable.
Oui, après 45, il y en a eu beaucoup plus qu'en 44.
En 41, il y en avait très très peu.
Ouais, clairement. Voilà, ils sentent que le bateau tangue un peu, ils essayent de rejoindre au dernier moment.
Une ou deux chaloupes qui te passent à côté.
Voilà, exactement. Et bien voilà pour cette émission, nous avons abordé des sujets quand même assez importants, tellement importants que franchement on pourrait presque en faire une émission entière pour chacun d'entre eux.
Mais on a dit tout le mal qu'on en pensait dans l'heure qui compte.
Ouais, voilà. Donc voilà, on a donné le maximum en une heure. J'espère que chacun a trouvé cette émission intéressante. Je remercie chaque personne pour sa participation. Je rappelle que on peut nous écouter sur les plateformes comme Deezer et Spotify. N'oubliez pas aussi de poser vos petites questions dans les commentaires pour la prochaine émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Daily d'opinion.
Et à bientôt.